Les Années-Lumière, édition du 2 août 2009. La rate livre de nouveaux secrets. Cet organe méconnu se révèle être un allié précieux pour lutter contre les maladies et les infections. Bonjour, ici Sophie André Blondin. Je suis en compagnie de toute l'équipe pour vous présenter cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Hugues de Roussan, ce voyage au pays de la rate, c'est vous qui nous y entraînez.
Oui, des chercheurs de l'Université de Harvard ont découvert que la rate agissait aussi comme un réservoir de certains globules blancs, les monocytes, ce qui permet d'envisager de nouveaux traitements médicaux.
Ensuite, nous voudrons voir la mer, Gaëlle Lucia Berdou, et ses poissons d'argent.
Et pour les voir encore longtemps, il faudra prendre des mesures, mais lesquelles? Des chercheurs ont fait l'analyse de ce qui fonctionne et de ce qui reste à faire.
Et nous prendrons quelques minutes pour nous mettre à jour dans le champ d'une science où tout se passe vite, très vite, plus vite qu'un atome qui tourne autour de son noyau. La science à tout seconde. Puis au courrier des Années-Lumière, une question sur l'utilité des virus. Et pour terminer la première heure, la chronique en rappel des Années-Lumière, Laurent Drissen nous parle de l'étoile la plus massive jamais mesurée, un exploit des scientifiques de l'Université de Montréal. Deuxième heure, nous poursuivons notre série sur les grands astronomes qui ont changé notre vision de l'univers. Cette semaine, de la musique et de la philosophie dans les étoiles, nous découvrirons William Herschel, musicien et astronome du 18e siècle. De la politique ensuite, pas n'importe laquelle, la démocratie, les décisions collectives et le vote tel que les singes le pratiquent, un reportage en rappel de Chantal Srivastava. Et pour terminer l'émission, Hugues de Roussan, vous recevrez l'auteur de la semaine.
Il s'agit de Marilène Patou-Matisse, préhistorienne et directrice de recherche au CNRS, qui a écrit un livre qui s'intitule « Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours » paru aux éditions Perrin.
Mais avant de terminer l'émission, Hugues, vous allez la commencer. Il y a une équipe de recherche de l'École de médecine de Harvard qui a découvert une nouvelle fonction de la rate qui pourrait éventuellement permettre d'améliorer le traitement de certaines maladies, des infections aussi. La rate est un organe qui, contrairement au foie ou au cœur, n'est pas indispensable. On peut très bien s'en passer, semble-t-il, si on fait attention. Mais ça sert quand même à quelque chose, Hugues.
Oui, ça sert à quelque chose. Par exemple, la rate permet de filtrer les vieux globules rouges et d'en récupérer le fer. Cette partie de la rate qui assume cette fonction s'appelle la pulpe rouge. Elle a aussi un rôle important dans le système immunitaire en produisant certains types de globules blancs qui s'attaquent et détruisent les éléments étrangers. On sait que les globules blancs sont en fait des défenseurs de l'organisme humain. C'est ce qu'on appelle la pulpe blanche. Ça, on le savait, mais ce qu'on ne savait pas, et c'est ce que les chercheurs ont découvert, c'est que c'est aussi un réservoir de monocytes. Les monocytes sont des globules blancs aussi. Il en existe trois types. Les monocytes sont les plus gros. Ils sont produits par la moelle osseuse et une fois arrivés à maturité, ils digèrent les bactéries, les débris cellulaires, les poussières et contribuent donc aussi à la défense immunitaire de l'organisme. Les monocytes participent également à la coagulation du sang.
Et comment les chercheurs de Harvard sont arrivés à cette découverte-là?
Bien, au départ, ils voulaient comprendre comment le système immunitaire réagissait à la suite d'un infarctus pour réparer les dégâts et diminuer l'inflammation des tissus cardiaques. Ils ont donc compté le nombre de monocytes impliqués dans le processus de cicatrisation et ils se sont aperçus que leur nombre dans la région malade du cœur était bien supérieur au nombre qui, en principe, on retrouve dans le sang. L'idée qu'il y avait quelque part dans le corps un réservoir a germé. Ils ont cherché et ils ont fini par trouver, c'était la rate. Ils étaient trois principaux chercheurs, Philippe Sirski, Mathias Mahendorf et Michael Pittet, que j'ai pu rejoindre par téléphone à Boston.
On va dire que la rate a vraiment deux fonctions importantes qui sont sous le nom de réservoir. Donc elle ne fabrique probablement pas les monocytes, mais en tant que réservoir, la rate a deux fonctions importantes. La première, c'est qu'elle est capable de stocker une grande quantité de ses cellules, mais elle est aussi capable de relâcher ses cellules en masse en fonction de la demande.
Donc, elle a tous les mécanismes nécessaires internes pour répondre à la demande.
Voilà. Mais c'est dans la moelle osseuse que les monocytes sont créés. Alors ensuite, une fois qu'ils sont matures, ils partent de la moelle osseuse, ils circulent dans le sang. et pour certaines raisons sont capables de rentrer dans la rate, et là les monocytes peuvent être stockés en très très grand nombre. Donc, beaucoup plus le nombre de monocytes dans la rate est beaucoup plus important que le nombre de monocytes qu'on peut trouver dans le sang, par exemple.
Donc ça veut dire qu'il y a un mécanisme pour permettre à ces monocytes d'entrer dans la rate, et il y a aussi un mécanisme pour les préserver dans la rate. C'est-à-dire, ils ne meurent pas dans la rate, ils restent actifs, potentiellement actifs.
Et ça, d'un point de vue scientifique, c'était quelque chose qui était assez étrange, parce que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, c'est quand un monocyte quitte le sang pour rentrer dans un tissu, que ce soit la rate ou un autre tissu, on pensait que ce monocyte allait se différencier, il allait devenir un autre type cellulaire. Alors, le fait qu'on ait des monocytes dans la rate, c'est assez étonnant, parce qu'on aurait pensé que justement, il se différencie. Alors, on a fait une série d'expériences pour déterminer si ces cellules sont des vrais monocytes ou bien s'ils sont différents. Et pour l'instant, avec toutes les analyses que nous avons pu faire, les cellules que nous trouvons dans la rate sont vraiment des monocytes.
Et ce sont des monocytes qui gardent leur fonction telle qu'elle, ou est-ce qu'elles mutent, est-ce qu'elles acquièrent d'autres facultés?
Alors, si on compare les monocytes de la rate et les monocytes du sang, on ne peut pas les distinguer. Il n'y a pas de différence. Alors, ça reste encore une énigme de pourquoi elles peuvent rester comme ça dans la rate. Mais ce qui est intéressant, c'est si on regarde où elles se trouvent, quelle est la topographie des cellules dans la rate, on voit en fait qu'elles sont en groupe de 20 à 50 cellules juste sous la capsule de la rate, juste sous la surface de la rate. Et en fait, elles sont positionnées probablement d'un point de vue stratégique pour pouvoir être rapidement relâchées dans le sang. Donc, elles sont juste à un endroit très particulier de la rate, où elles sont tout près de vaisseaux qui vont permettre justement à ces cellules de pouvoir rentrer dans la circulation et éventuellement de pouvoir rentrer, aller après dans d'autres tissus, là où les monocytes sont nécessaires.
Comme des escadrons dans une armée qui sera en état d'alerte en permanence et prêt à partir sur demande.
La rate pourrait être en quelque sorte, si on utilise une métaphore, une sorte de réserve. Au lieu de devoir produire des nouveaux monocytes à chaque fois qu'on en a besoin, on a ce grand stockage dans la rate, et ces cellules, au lieu d'être fabriquées, elles n'ont plus qu'à être relâchées. Donc on gagne du temps, si vous voulez. Et dans un grand nombre de maladies ou de situations d'inflammation aiguë, c'est très important d'être rapide. Donc probablement que c'est utile d'avoir ce réservoir pour ces raisons-là.
Maintenant qu'on connaît cette fonction de la rate, est-ce qu'on peut, entre guillemets, l'améliorer? Est-ce qu'on pourrait activer sa capacité de stockage et sa capacité d'envoyer dans le système des monocytes quand le système en a besoin?
Probablement que la réponse est oui. Et en fait, si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on regarde des études qui ont été faites il y a quelques années, il y a une étude qui est assez intéressante dans ce contexte. Elle a été publiée il y a presque 30 ans maintenant, qui avait comparé des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale à qui on avait dû enlever la rate à cause d'un traumatisme. On s'est rendu compte en fait que chez ces vétérans qui n'avaient plus de rate, avaient deux fois plus de chances de mourir de maladies type cardiovasculaire, qui suggère effectivement que la rate est un organe important pour lutter contre certaines maladies. Effectivement, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait imaginer de contrôler ce réservoir de monocytes en thérapie? Et je pense qu'une des façons d'approcher la question, c'est de se dire finalement qu'un grand nombre de médicaments ou de thérapies qu'on utilise aujourd'hui dans un grand nombre de maladies visent à réduire l'inflammation. Alors comme ces monocytes qui sont dans la rate ont un caractère pro-inflammatoire, on pourrait effectivement imaginer que de contrôler le stockage ou le relargage de ces cellules pourrait contrôler l'inflammation en général. Mmh. Alors, par exemple, on pourrait se dire dans les maladies comme par exemple après une crise cardiaque ou lors d'une blessure ou d'une infection aiguë, dans ce cas-là, ce serait peut-être bien de pouvoir mobiliser ces cellules en grand nombre. Peut-être dans d'autres cas, ça serait mieux de les séquestrer. Hein. Je pense par exemple au cancer ou à d'autres types de maladies auto-immunes, par exemple. Dans ce cas-là, on sait que les monocytes ont un mauvais rôle. Et dans ce cas-là, peut-être ça serait utile de pouvoir les séquestrer dans la rate. Cette observation pourrait ouvrir de nouvelles possibilités thérapeutiques pour contrôler l'inflammation.
Michael Pittet, qui est assistant professeur à l'école de médecine de l'Université Harvard. Hugues, vous l'avez dit tout à l'heure, quand même, la rate n'est pas indispensable, comme le cœur ou comme le foie.
Oui, on peut s'en passer, mais ce n'est pas non plus comme l'appendice qui, lorsqu'elle est enlevée, n'a aucune conséquence sur la santé, hormis peut-être conséquences esthétiques pour les cicatrices qu'on garde. On peut donc se passer de la rate, mais il faut quand même faire attention. Cela peut fragiliser le système immunitaire et certaines précautions peuvent s'avérer nécessaires. On écoute Denis Soulière, qui est hématologue et oncologue à l'hôpital Notre-Dame du CHUM.
La rate, une bonne fonction de ce que fait la rate peut être faite par d'autres organes, dont principalement le foie, justement. La fonction de filtrer le sang, d'enlever les globules rouges qui sont anormaux, peut être faite par d'autres éléments de ce qu'on appelle le système réticulo-endothélial, donc de ces cellules qui vont éliminer les cellules du sang qui sont inadéquates. Et le reste du système lymphatique aussi peut jouer assez adéquatement le rôle joué par la pulpe blanche. Il y a cependant des catégories de patients pour lesquels c'est moins vrai de dire que c'est pas aussi essentiel. Donc, il y a des gens qui risquent d'être beaucoup plus malades s'ils n'ont pas leur rate. On sait très bien que, par exemple, une personne qui a eu un traumatisme, un accident de voiture et qui perd sa rate, si on regarde avec les années, la probabilité qu'elle développe des infections sévères, sanguines, bactériennes, est un peu plus élevée que celle de la population générale. Par contre, on regarde d'autres catégories de patients qui perdent leur rate ou dont la rate va s'atrophier de façon naturelle, ces gens-là vont être à une plus grande probabilité d'avoir des infections sévères. Non seulement est-ce que ces gens vont avoir parfois une perte naturelle, donc la rate va s'atrophier d'elle-même, et ils vont aussi avoir vraiment une plus grande proportion de ces patients qui risquent d'avoir des infections sévères et qui, même pour certains d'entre eux, doivent avoir une antibioprophylaxie prolongée, donc pendant toute leur vie, pour empêcher de faire des infections de la sorte. On est capable de vivre sans, oui, mais c'est généralement quelque chose qui arrive à un âge plus adulte. On sait que les patients splénectomisés dans les âges pédiatriques ont des proportions d'infections qui sont très nettement supérieures et d'autres types de maladies aussi qui peuvent être supérieures. Et c'est une procédure qu'on essaie d'éviter le plus possible que d'enlever la rate dans un contexte pédiatrique, justement pour toutes ces complications secondaires.
C'est pas comme l'appendice où on peut se faire enlever l'appendice et puis finalement ça change rien pour la santé de quelqu'un. Il y a quand même un risque.
Il y a toujours un risque. Quelqu'un chez qui l'on sait que l'on va enlever la rate pour différentes raisons et qu'on a le temps de le faire, il y a des processus que l'on doit respecter adéquatement, c'est-à-dire certaines vaccinations qui doivent être faites, étant donné que les gens qui ont la rate enlevée vont avoir une plus grande susceptibilité à certains types d'infections comme le pneumocoque, méningocoque et hémophilus influenzae.
Denis Soulière, hématologue et oncologue. Hugues, il y a une des expressions qui utilise la rate qui dit « courir comme un dératé ». Est-ce que c'est une légende urbaine que ceux qui n'ont plus de rate peuvent courir très longtemps et sans se fatiguer?
En fait, Sophie-André, quand la rate normalement élimine les globules rouges défectueux ou qui sont trop vieux, elle agit en quelque sorte comme un régulateur. Donc, une personne qui n'a plus sa rate, ce n'est plus possible, alors le nombre de globules rouges augmente dans le sang, il y a les sains et les défectueux, ce qui en principe veut dire plus de globules rouges, donc plus d'hémoglobine, donc plus d'oxygène transporté dans le sang pour nourrir les muscles. Donc, en principe, cela se traduit par une plus grande capacité de fournir un effort plus grand. C'est un peu le principe de l'EPO.
Et voilà.
Cette drogue qui permet d'augmenter la densité du sang, cette drogue qu'utilisent certains athlètes pour améliorer leur performance. Ce qui ne veut pas dire que je conseille aux gens de se faire enlever la rate ou de prendre de l'EPO.
On aura compris. Merci, Hugues.
Merci.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio tradeunioncanada.ca/lumière. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière.
Certaines ressources marines sont en péril, ça on le sait, souvent elles sont victimes de la surpêche. Alors, quelles sont les solutions pour rebâtir, pour régénérer ces stocks de poissons? C'est la question sous-jacente à une vaste étude internationale, une étude qui vient d'être publiée dans la revue Science cette semaine, Gaëlle-Lucia Berdoux.
Et pour répondre à cette question, une vingtaine de chercheurs ont analysé l'état des ressources océaniques dans différentes régions de la planète. C'est un exercice qui fait suite à deux autres études, l'une publiée en 2003 par les chercheurs Ransom Myers et Boris Worm de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, puis une autre publiée en 2006. Deux études qui avaient beaucoup fait réagir à l'époque. C'est ce que nous raconte Daniel Ricard, lui aussi de l'Université Dalhousie.
L'article de 2003 qui était dans la revue Nature documentait une réduction de 90% des stocks de poissons, des grands poissons comme des thons et des morues durant les 10 premières années d'exploitation. Donc c'était un effondrement des stocks d'une manière rapide et consistante à travers le globe. L'article de 2006 D'un autre côté, regardait plus au niveau des services que les écosystèmes peuvent donner à la population mondiale. Et puis, un de ces services-là, c'est la provision d'aliments et de protéines à travers les pêcheries. Et puis, ce qu'on prédisait, c'est que si la tendance actuelle se poursuit, qu'à l'an 2048, ces systèmes-là seraient pratiquement réduits à zéro. Donc, il y aurait un effondrement des stocks et puis une inhabilité des écosystèmes océaniques à produire et à nous fournir des protéines alimentaires.
Et ça avait attiré pas mal de critiques, ces conclusions-là, non?
Ça avait attiré énormément de critiques pour des raisons qui dépendent de où vous venez dans le monde. Donc, par exemple, Ransom Myers avait été amené au Congrès des États-Unis parce que si ses conclusions étaient vraies, donc les stocks s'étaient effondrés de manière globale, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de gens dans les systèmes de gestion des pêches qui ne faisaient pas leur travail. Donc, on était à des niveaux qui étaient plus bas que ceux qui étaient stipulés dans les instruments légaux, comme par exemple le Fisheries Act du Canada et les lois qui gèrent la pêche et les activités en océan.
Alors, pour cette étude que vous venez de publier, vous avez un peu rallié ces scientifiques qui étaient sceptiques il y a quelques années pour refaire une autre étude. Qu'est-ce que vous avez fait cette fois-ci?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis à la même table. On a mis sur pied un groupe de travail qui a amené à la fois des écologistes et des scientifiques en pêcherie pour recommencer l'analyse des données pour voir quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer.
Daniel Ricard, qui est chercheur à l'Université Dalhousie, Gaëlle, une sorte d'exercice de réconciliation?
Oui, et pour le faire, cet exercice, comme le disait M. Ricard, les chercheurs ont voulu avoir une vision en fait plus précise de ce qui se passe dans les océans, notamment obtenir une description détaillée par région. En tout, ils ont étudié 10 écosystèmes dans le monde pour savoir si les conclusions générales assez pessimistes des études précédentes pouvaient s'appliquer à chacun de ces écosystèmes indépendamment, une véritable enquête policière océanique, selon l'auteur principal, Boris Worm.
L'analogie que j'utilise, c'est que c'est un peu comme une enquête criminelle pour la surpêche. Où pouvons-nous trouver des preuves de surexploitation et où se trouvent les pratiques qui s'améliorent? Cette enquête nous a permis non seulement d'analyser beaucoup plus en profondeur ce qui se passe dans les pêches, mais aussi, pour la première fois, de vraiment quantifier les tendances en matière de taux d'exploitation. Le taux d'exploitation, c'est la proportion de poissons qui sont retirés d'un écosystème chaque année. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est vraiment une avancée importante parce que le taux d'exploitation est le principal moteur de l'épuisement et de l'effondrement des stocks. Un peu comme le CO2 est le principal moteur du réchauffement et des changements climatiques. Donc, en sachant comment évolue ce moteur, nous comprenons beaucoup mieux où nous nous situons et où nous allons. Depuis toujours, comme dans le cas du CO2, le taux d'exploitation, c'est le paramètre que nous pouvons ajuster volontairement avec des méthodes de gestion adéquates. Nous avons donc voulu savoir quels outils ont été utilisés pour ajuster l'exploitation et réduire la pression des pêches.
Boris Worm, professeur à l'Université Dalhousie, Gaëlle, M. Worm parle des outils qui réussissent à réduire la pression sur les écosystèmes marins. C'est donc qu'il y en a qui réussissent, qui fonctionnent.
Oui, en tout, sur les 10 écosystèmes étudiés, les chercheurs ont conclu qu'il y en avait 2 où il n'y avait pas véritablement de problème de surexploitation et 5 où la tendance s'était renversée en faveur d'une exploitation durable grâce à diverses mesures.
Et tout ça, est-ce que ça rend les chercheurs un peu plus optimistes que dans les études d'avant?
Oui, c'est ce que j'ai demandé à Daniel Ricard. On l'écoute.
On est plus optimiste qu'on l'était il y a quelques années, oui. Par contre, on essaie d'avancer un message qui est plutôt nuancé. C'est-à-dire que la situation s'améliore, mais elle ne s'améliore pas partout. Mais où est-ce qu'elle s'améliore? On voit que c'est possible pour notre espèce, en utilisant des instruments légaux et politiques, de gérer l'utilisation des ressources renouvelables océaniques. Et ça peut se faire dans un contexte durable.
Alors, où est-ce que vous avez vu que la situation s'améliore pour les stocks de poissons, de fruits de mer?
Alors, on a 2 situations. Il y a, je vous dirais, ceux où on n'a pas vraiment eu de problème. Donc, on a échappé à l'effondrement des stocks. Et ça, c'est le cas dans des endroits comme, par exemple, le golfe de l'Alaska. Donc, je ne vous dirais pas que toutes les espèces sont comme ça, mais en grande majorité, la gestion des pêches y était déjà stricte et durable. Donc, on a une situation qui perdure. Des endroits où on a changé de cap, par exemple le golfe de la Californie et le nord-est des États-Unis, qui étaient des systèmes complètement surexploités, où on a mis en place des mesures de diminution de l'effort de pêche et on a vu aussi des rebondissements, une augmentation de la biomasse des espèces qui étaient effondrées.
On parle de quel type d'espèces?
Sur la côte est, ici, on parlerait d'aigle fin, de pétoncle. Sur la côte ouest, une variété d'espèces. Là, je pourrais vous donner une liste d'épiceries, mais ça ne serait pas nécessairement pratique.
Alors, quels sont les outils? Qu'est-ce qui a fonctionné et qui a fait en sorte qu'on a réussi à échapper à l'effondrement des stocks, justement?
Alors, habituellement, ce qu'on a vu, nous, qui fonctionnait, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas une solution qui va faire à tous les systèmes. Habituellement, ce qu'on voit qui est efficace, c'est une multitude de mesures qui sont mises en place ensemble. Donc, par exemple, une réduction de l'effort de pêche, c'est toujours une mesure qui est très importante parce qu'il y a toujours eu, historiquement, je ne vous dis pas partout, mais c'est une tendance qu'il y a une surexploitation des stocks et donc il y a un surinvestissement sur la flotte de pêche. Donc, une réduction de l'effort de pêche, des flottes de pêche, c'est toujours quelque chose qui est pratiquement essentiel pour le rebondissement des écosystèmes. Les autres choses qu'on a vues, c'est des changements technologiques sur les engins de pêche pour qu'ils soient capables de mieux cibler les espèces cibles et vont être capables de donner un petit peu plus de sécurité pour les espèces qui ne sont pas visées par l'exploitation. Donc, des espèces qu'on prend en capture accidentelle et qui, des fois, vont souffrir plus que les espèces commerciales, comme par exemple, c'est le cas pour plusieurs espèces de requins qui sont capturées accidentellement sur des pêches tonnières, mais qui ne sont pas nécessairement les espèces qu'on veut garder. Et puis, finalement, une autre mesure qui se montre de plus en plus efficace, c'est les aires protégées. C'est de fermer des secteurs entiers de l'océan à toute activité commerciale et surtout à l'exploitation des pêches.
Daniel Ricard de l'Université Dalhousie, Gaël, ça c'est pour ce qui fonctionne, mais tout n'est pas rose. Il y a encore des endroits, beaucoup, où les stocks de poissons sont malmenés.
Oui, et un des endroits étudiés par les chercheurs qui est souvent cité en contre-exemple, il nous concerne, c'est celui de la côte est canadienne. Et puis, malgré le fait que certains endroits s'en tirent mieux qu'avant, les chercheurs notent quand même que 63 % des stocks de poissons étudiés ont encore besoin d'être reconstitués. Et puis, il faut dire aussi qu'on manque cruellement de données dans beaucoup de régions du monde. Ils ont étudié 10 écosystèmes, mais il en reste encore bien d'autres, notamment autour des pays en développement, où il faudra encore travailler beaucoup pour en connaître un peu plus.
Merci, Gaëlle.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, la vie et l'œuvre de William Herschel, astronome, musicien, compositeur du 18e siècle et oui, complice de Joseph Haydn le soir au pied du télescope.
Haydn va rester 3 jours et 3 nuits avec Herschel. Il dit même qu'ils vont chanter des psaumes ensemble au pied du télescope. Et lorsque Haydn retourne en Autriche, il va composer quand même l'oratorio La Création avec le célèbre passage Und es ward Licht, et ce fut la lumière avec un fortissimo sur le mot Licht qui illustre le chaos, le Big Bang.
Premier, vous entendrez ce fortissimo en deuxième heure. Petite devinette maintenant, de quoi parlent des physiciens et des chimistes lorsqu'ils se réunissent en été à la Kansas State University? Ils parlent de science attoseconde, bien sûr. L'attoseconde, c'est d'abord une durée courte, très courte, 10 à la moins 18 secondes, un millionième de millionième de millionième de seconde. Une attoseconde, c'est à la seconde, ce que la seconde est à l'âge de l'univers. Mais c'est une échelle de temps qui correspond à l'échelle des électrons, l'échelle des atomes. Il faut par exemple 150 attosecondes pour qu'un électron fasse le tour de son noyau. Alors comment voir des phénomènes qui se déroulent si rapidement? Comment, on peut rêver, intervenir à cette échelle? Ben, avec des impulsions laser ultra rapides, des impulsions qu'on parvient à générer maintenant dans plusieurs laboratoires à travers le monde. Les sources de la science attoseconde sont entre autres ici au Canada, avec les travaux de Paul Corcum et de André Bandrock. Tous deux font partie des chercheurs qui ont convergé vers Manhattan au Kansas, pour cette deuxième conférence attoseconde qui se déroule en ce moment. André Bandrock, qui détient la chaire de recherche du Canada en chimie computationnelle et photonique moléculaire, c'est à l'Université de Sherbrooke. Brooke s'est rendu au studio à l'Université du Kansas. Il était accompagné de Uwe Thum du département de physique de la Kansas State University.
C'est un domaine qui est en explosion parce que suite à des calculs par nous, les théoriciens, comme mon collègue Uwe et moi-même, nous avons proposé des façons de préparer des nouvelles impulsions attosecondes. Les expérimentateurs nous ont suivis et maintenant il y a plusieurs laboratoires dans le monde qui sont capables de faire des impulsions attosecondes. Il y a même une équipe importante de la Chine ici. Maintenant, de plus en plus, les expérimentateurs se servent de ces impulsions attosecondes pour regarder ce qui se passe à l'intérieur des atomes et des molécules pour essayer de contrôler les électrons. La première conférence attosecondes à Munich, il y avait 60 participants. Ici au Kansas, il y en a au-delà de 200 déjà.
Et ce sont des gens de la physique, de la chimie?
Je vais laisser mon collègue Uwe vous répondre parce que c'est lui qui est co-organisateur.
De la plupart, ce sont des gens de la physique, mais aussi il y a des chimistes ici, des chimistes théoriques souvent, et aussi des chimistes qui font des expériences pour étudier le mouvement, par exemple, des noyaux dans les molécules assez grands. Une des buts ici est de suivre en temps le mouvement des électrons. Alors c'est très important parce que le mouvement des électrons, c'est ce qui fait possible réarrangement dans une molécule. Alors les réactions chimiques, maintenant, on peut imaginer de suivre en temps.
Alors ça serait comme aller filmer le mouvement des électrons comme un film?
Exactement.
D'ailleurs, à l'Université de Sherbrooke, on a reçu dernièrement un octroi de la Fondation canadienne d'innovation pour créer un centre de recherche pour faire des films moléculaires. Essayer de voir avec des lasers attosecondes. Ce sont des impulsions qui sont capables de suivre le mouvement des électrons. Et de là, à partir de ces expériences, faire des films pour montrer aux étudiants ou aux autres chercheurs.
Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller voir le mouvement des électrons?
Écoutez, vous êtes capable de voir autour de vous à cause des électrons. Les électrons sont les récepteurs de la lumière. Dans les plantes, la photosynthèse, il y a des molécules qui absorbent la lumière et ces électrons qui sont responsables de cette absorption et qui transfèrent cette énergie pour les réactions chimiques. Alors les électrons, c'est des bêtes primordiales. Et pourtant, on ne les a jamais vus fonctionner. On est capable de visualiser des atomes maintenant, avec des rayons X, etc., mais jamais des électrons. Alors, c'est là la grande percée des impulsions attosecondes, c'est qu'on a des caméras qui vont être capables de suivre, photographier les électrons à leur échelle de temps. Ça prend 150 attosecondes pour un électron pour faire le tour de l'atome d'hydrogène. Alors maintenant, on a des impulsions qui sont capables de voir ça.
Parce que les impulsions les plus rapides qu'on réussit à générer avec des lasers, maintenant, elles sont de quel ordre?
Le record, c'est 80 attosecondes.
Alors, plus rapide que le voyage de l'électron autour
absolument,
de son noyau.
Absolument. C'est vraiment une percée importante en science.
Il y a deux choses qui sont intéressantes. La première chose est d'observer le mouvement des électrons. Et la seconde chose est de contrôler le mouvement des électrons. Et avec des lasers modernes et des systèmes de lasers capables de faire des pulses assez courtes, 40 attosecondes, on est maintenant capable de faire les deux. Alors on peut observer le mouvement des électrons, mais on a aussi la possibilité de changer la façon de ce mouvement.
Et qu'est-ce qu'on peut faire en contrôlant comme ça les électrons à la pointe d'un laser? Ce serait un peu comme un crayon, M. Bandrock, c'est ça?
Oui, bien c'est qu'avec une impulsion laser très très courte, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'intérieur des molécules et des atomes, les électrons ce ne sont pas des particules, ce sont des ondes, comme une onde dans un lac. Vous jetez une pierre, l'eau se disperse partout. Alors dans une molécule, vous avez des ondes où l'électron est complètement dispersé, il se trouve partout. Et c'est à cause de ça qu'il y a des erreurs génétiques, les réactions chimiques ne sont jamais parfaites, etc., etc., parce que l'électron, il se promène partout. Alors avec une impulsion attosecondes, on va réussir à comprimer ces ondes et placer l'électron à un endroit dans une molécule et lui dire, bien, toi, tu vas aller là-bas, sur cet atome, tu vas faire ta réaction. Et donc, on pense maintenant qu'on pourra réparer des molécules, par exemple, le code génétique. Un exemple que je vais vous donner, c'est le cancer de la peau. Alors, cancer de la peau, ce qui arrive, c'est que les rayons solaires collent des molécules de l'ADN ensemble. Et quand l'ADN se déroule, elle ne peut pas les coller. Alors, il y a une protéine qui sait ça, vient chercher un électron dans le milieu et plante l'électron sur la place où l'ADN a été collé et décolle l'ADN automatiquement. Alors, on sait maintenant qu'avec un laser à taux seconde, on pourra aller chercher des électrons et réparer de l'ADN avec des lasers. Parce qu'on pourra contrôler, placer l'électron où on veut dans une molécule. C'est ça la grande promesse des impulsions à taux seconde.
Alors, c'est plus de la microchirurgie, c'est plus que de la nanochirurgie, c'est de l'atochirurgie.
C'est la latochirurgie, c'est ça. La chirurgie au laser à taux. Dans le moment, on est en période de consolidation, si vous me permettez de le dire, de raffinement. Comment améliorer les sources à taux seconde? Dans le moment, les seules sources à taux seconde, ce sont des lasers très intenses. On frappe une molécule ou un atome avec une impulsion laser très intense. Cette molécule absorbe toute l'énergie et puis réémet cette énergie en flash, comme une luciole. Et ça, c'est les impulsions à taux seconde. C'est la seule façon, dans le moment, de faire ces impulsions. Donc, cette conférence, il y a des gens qui ont présenté d'autres façons de le faire. Donc, c'est en évolution. Il y a eu pas tellement d'applications encore, parce que c'est encore en évolution. La prochaine étape, c'est prendre les impulsions à taux seconde, les comprimer à zeptoseconde, 10^21 secondes. Et là, l'énergie à l'intérieur d'une impulsion sera encore beaucoup plus élevée. Et avec ça, on pourra même aller sonder les noyaux et même déclencher des réactions nucléaires. Alors, j'imagine que les applications vont s'accentuer dans 2 ou 3, 4 ans.
Alors, Wetum et André Bandrock, je vous remercie tous les deux et je vous laisse aller à la poursuite de cette conférence à Kansas State University. Merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions aussi. Merci beaucoup. Mm-hmm. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
André Bandrock est de l'Université de Sherbrooke, Wetum du département de physique de la Kansas State University. Le facteur est passé, voici ce qu'il nous a laissé.
Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Delaurier de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On associe souvent, pour ne pas dire toujours, le mot virus à maladie, fièvre, pandémie, mortalité aussi. Bon, j'aimerais savoir si on peut quand même leur attribuer une certaine qualité ou une raison essentielle de leur existence pour qu'il y ait la vie sur Terre. Je pourrais même vous poser la question autrement en vous demandant, par exemple, est-ce que l'élimination totale de toute forme de virus sur la planète viendrait à nous nuire? Alors, je vous remercie à l'avance. Au revoir.
Pour répondre à M. Delaurier, Gaëlle Lucia Berdou a contacté Pierre Talbot, chercheur en virologie à l'Institut Armand Frappier de l'Institut national de recherche scientifique.
Oui, bien, nous vivons avec des virus depuis des millions d'années. Donc, on ne peut pas penser à éliminer des virus, j'imagine, mais on pense à certains effets bénéfiques des virus. Par exemple, si on est affecté par des virus tôt dans la vie, ça nous protège contre des infections par d'autres virus plus tard dans la vie et peut-être même contre certaines maladies auto-immunitaires comme la sclérose en plaques.
Parce que ça développe notre système immunitaire?
Voilà, exactement. Il y a aussi des virus qu'on appelle rétrovirus qui sont présents dans le génome humain. Ce ne sont pas des virus intransmissibles, mais on sait qu'ils peuvent participer à des processus importants comme la formation du placenta chez les femmes enceintes.
Du placenta?
Oui, ces gènes de rétrovirus peuvent participer à certains mécanismes de formation du placenta sans rentrer dans des détails.
Et ils nous servent aussi à certaines applications médicales, ces virus?
Oui, on a amené certains virus, comme les rétrovirus, pour transférer des gènes humains dans des personnes qui ont ce gène défectueux. Donc, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique et c'est en développement depuis de nombreuses années. Et on espère que ça fonctionnera très bien dans le futur.
Et on a même utilisé des virus pour lutter contre des bactéries à certaines époques?
Oui, mais c'est des virus, c'est des bactériophages qui infectent des bactéries et c'est une voie de défense contre les bactéries qu'on essaie d'utiliser en plus des antibiotiques, bien sûr.
Et les bactéries, ce sont parfois des pathogènes aussi, mais dont on a beaucoup parlé des aspects plus positifs pour la santé humaine. Comment ça se fait que les virus, eux, aient aussi mauvaise presse?
Ben, vous faites allusion peut-être au fait que les bactéries forment une flore intestinale qui nous aide à digérer les aliments. Et sur cette base d'analogie, je pense, et d'autres chercheurs dans le monde pensent que certains virus pourraient nous aider dans certains processus normaux, comme dans le fonctionnement du système nerveux, mais la preuve est encore loin.
Alors, quelle pourrait être cette participation-là?
Ah, c'est très la science-fiction pour le moment. On sait que les virus sont présents dans le cerveau. Par exemple, le coronavirus sur lequel je travaille, qui est un virus du rhume, mais qui peut être présent dans le cerveau. Et on peut penser qu'il déclencherait certaines maladies neurologiques, mais on peut aussi imaginer qu'il pourrait être utile à certains processus du système nerveux.
Donc, il reste encore énormément de recherches à faire sur ces virus-là?
Oui, bien sûr, les virus sont fascinants. On a beaucoup à apprendre d'études de ces virus.
Est-ce qu'on a aussi beaucoup travaillé sur l'aspect pathogène des virus, plus que sur leur utilité, peut-être?
Oui, bien, c'est le cas. Les chercheurs cherchent à trouver des solutions à des maladies. Donc, les virus causant des maladies, on cherche à comprendre comment ils causent ces maladies et à prévenir les maladies par des vaccins ou des thérapies antivirales.
Donc, on s'est moins penché sur leur aspect utile.
Oui, bien sûr, sauf la thérapie génique, comme je parlais tantôt. Mm-hmm. C'est un aspect bénéfique qui est encore peu exploité, auquel on devrait s'attarder dans le futur.
Où là, le virus sert de vecteur véritablement pour la thérapie.
Ça. Mais c'est pas facile. C'est pas aussi facile à dire que le faire. Donc, le virus doit être sécurisé pour ne pas causer de pathologie et transférer seulement le gène utile aux patients.
Les virus semblent être des formes de vie. Enfin, il y a quand même un débat là-dessus. Est-ce que c'est vivant ou pas, les virus? Mais oui. ça paraît en tout cas être si c'est une forme de vie très, très vieille, disons, dans l'évolution, est-ce que les virus pourraient avoir eu un rôle dans l'évolution de la vie sur Terre?
Oh, c'est très spéculatif, mais les virus sont pas vivants vraiment. C'est des paquets de gènes et de protéines qui ont besoin d'infecter les cellules pour se propager et pour survivre. Donc, ce sont des parasites. Et en parasitant les cellules, ils causent certaines maladies. Voilà, c'est l'effet secondaire de leur parasitisme obligatoire.
Je vous remercie beaucoup, M. Talbot.
Merci beaucoup.
Pierre Talbot est virologue à l'INRS, Institut Armand Frappier. Allez-y, vous aussi, posez-nous vos questions pour nous joindre. Vous le faites par téléphone de la région de Montréal au 514-597-6166. De l'extérieur, le 1-800-752-9050 et par courriel, lumière@radio-canada.ca. Et maintenant, la chronique en rappel avec notre animateur en vacances, Yannick Villedieu.
La chronique, maintenant, pour terminer cette première heure, cette semaine avec Laurent Drissen, astronome à l'Université Laval. Bonjour Laurent.
Bonjour Yannick.
Laurent, vous voulez nous parler aujourd'hui de travaux exécutés par des collègues à vous, et néanmoins amis, bien sûr, de l'Université de Montréal,
oui. Hein,
qui viennent de mesurer la masse de ce qui pourrait être l'étoile la plus massive de la Voie lactée de notre galaxie, hein, qui compte 100 milliards d'étoiles, quelque chose comme ça.
Oui, à peu près, oui.
Et ils ont trouvé la plus massive.
Oui, bien, enfin, on le verra tout à l'heure. c'est sûrement une des plus massives. Donc, c'est un groupe dirigé par Olivier Schnour, Tony Moffat à l'Université de Montréal.
Oui.
Donc, un étudiant en doctorat, son superviseur. Donc, c'est une étape de plus dans la découverte, si on veut, des étoiles les plus massives, les plus grosses de notre Voie lactée.
Alors, étoiles les plus massives, étoiles les moins massives, j'imagine qu'il y a des extrêmes entre lesquels on se situe. Enfin, au moins, la théorie le prédit, c'est comme ça que ça marche.
Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'étoiles qui ont la masse de la Terre ou, à l'inverse, pourquoi il n'y a pas d'étoiles qui ont 10 000 fois la masse du Soleil?
Oui, bonne question.
Oui, c'est dû tout simplement au fait que ce qui fait briller les étoiles, ce sont les réactions nucléaires qui se produisent au centre et en particulier la transformation de l'hydrogène en hélium.
Oui.
Or, l'efficacité de ces réactions nucléaires et donc la quantité d'énergie qu'elles génèrent est extrêmement sensible à la température centrale de l'étoile. Tout d'abord, si jamais la température centrale est inférieure à environ 5 millions de degrés, les réactions nucléaires ne peuvent pas se produire. L'énergie cinétique des protons n'est pas suffisante pour qu'ils se fusionnent.
Mmh. Donc, il n'y a pas d'étoile, ça ne brille pas.
Donc, ça ne brille pas. Donc, c'est ce qui fixe la limite inférieure, qui mm-hmm. correspond à peu près à 8 % de la masse du Soleil.
Ouais.
Parce que, en fait, ce qui fait chauffer le gaz au centre de l'étoile, c'est la gravité. Plus il y a de masse, plus la gravité est importante.
C'est ça.
Donc, plus le matériau est comprimé au centre et donc la température augmente.
D'accord. Ça, c'est la limite inférieure, 8 %, donc à peu près 12 fois moins massif que le Soleil.
Exactement.
Mm-hmm.
Dans le cas de la limite supérieure, bien, vous augmentez la masse de l'étoile. Donc, l'étoile commence à se former par accrétion de matière. Vous augmentez sa masse. Mais justement, à cause du fait que les réactions nucléaires sont extrêmement sensibles à la température, il suffit d'augmenter la masse suffisamment pour que les réactions nucléaires qui génèrent en fait une grande quantité de rayonnement sous forme de rayons gamma principalement, ces rayons gamma poussent sur l'extérieur de l'étoile, poussent sur la matière, sur le gaz.
Mm-hmm.
Si jamais la gravité est inférieure à cette pression qui a tendance à pousser vers l'extérieur, bien l'étoile devient tout simplement instable.
Mm-hmm.
Et c'est ce qui fixe la limite supérieure, qui correspond à peu près à 150 fois la masse du Soleil, du moins selon la théorie.
C'est ça. Donc, on peut être une étoile entre 12 fois moins massive que le Soleil ou 150 fois plus massive que le Soleil. Mm-hmm. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on mesure la masse d'une étoile? On ne pèse pas ça facilement, quand
non.
même.
Non, pas du tout. Oui. Bah, vous savez, on est ingénieur en astronomie, oui. on invente oui. plusieurs techniques. La plupart des techniques, en fait, sont des techniques, des mesures indirectes qui font appel à une théorie, à des modèles d'évolution stellaire. Il oui. n'existe qu'une seule méthode qui permet de mesurer directement la masse des étoiles en utilisant les bonnes vieilles lois de Newton, les principes des trois lois de Kepler.
Oui.
Mais il faut pour cela que l'étoile en question soit membre d'un système binaire, donc deux étoiles qui sont liées gravitationnellement. En mm-hmm. mesurant leur vitesse, on peut mesurer leur masse directement, simplement D'accord. en appliquant la loi de Newton.
D'accord. Alors, ça, c'est comment on mesure. Mais on se dit aussi où est-ce qu'on doit chercher, parce que j'ai dit il y avait 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nos astronomes, vos collègues de l'Université de Montréal, ils n'ont pas toutes faites. Hein?
Non.
Ils ont cherché de façon dirigée.
Oui, dirigée. Ouais. Donc, les étoiles massives sont extrêmement lumineuses, donc on peut les voir à de très, très grandes distances. Et étant donné que ces étoiles vivent très, très peu longtemps, donc il faut les chercher relativement proches de leur lieu de naissance.
Oui.
C'est-à-dire dans des nuages qu'on appelle des nuages moléculaires très massifs. Et dans la Voie lactée, il y en a relativement peu comparativement aux autres galaxies. Donc, il y a peut-être une dizaine de ces nuages moléculaires géants dans
D'accord.
la Voie lactée.
Donc, ça permet d'orienter les recherches.
Oui. Exactement. Et un de ces nuages moléculaires géants, on l'appelle NGC 3603. C'est d'ailleurs une région de formation d'étoiles absolument magnifique. Dans l'hémisphère sud, c'est un objet qui est très, très beau. Très jeune, aussi, on parle de moins de 2 millions d'années, et extrêmement dense. Le groupe d'étoiles au centre, d'étoiles très, très lumineuses au centre, est extrêmement dense, difficile à distinguer. Donc, les chercheurs ont dû utiliser des télescopes avec une acuité visuelle extrême, comme le télescope Hubble. Et dans ce cas-ci, le télescope Hubble et en plus, le télescope VLT du Chili mm-hmm, avec un système mm-hmm. d'optique adaptative.
OK. Donc, on a regardé dans cette partie-là là, du ciel, dans ce système-là, NGC 3603.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qu'on a là, on a cherché, il y a encore beaucoup d'étoiles. Là.
Il y a encore beaucoup d'étoiles. Il y en avait quelques-unes qui avaient déjà été identifiées comme étant très lumineuses. Et une de celles-ci, qu'on appelle A1, donc a été observée par cette équipe de Montréal. Et on s'est rendu compte que les deux étoiles membres de ce système binaire se déplaçaient à des vitesses autour de 1000 km par seconde.
Par seconde?
C'est vraiment énorme. C'est un des cas les plus extrêmes là, de vitesse mm-hmm. dans un système binaire. Et tout simplement en appliquant les lois de Kepler, avec les observations qu'ils avaient obtenues, ils se sont rendus compte que l'étoile la plus massive des deux avait environ 116 fois la masse du Soleil
wow.
et l'autre mmh. 89 fois la masse du Soleil.
Et ça, c'est les plus gros, 116 fois la masse du Soleil, donc une des deux étoiles du système A1. Là.
Mm-hmm.
C'est donc l'étoile la plus massive qui ait jamais été observée et mesurée?
Mesurée directement avec cette technique relativement simple qui fait appel aux lois de Newton.
Mm-hmm.
Donc, c'est peut-être pas l'étoile la plus massive de la Voie lactée, mais jusqu'à maintenant, c'est l'étoile la plus massive qui a été mesurée directement.
Oui, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que théoriquement, on pourrait avoir des étoiles qui auraient 150 fois la masse du Soleil.
Oui.
Là, celle-ci a 116 fois la masse du Soleil, je dirais seulement, 116 mmh. fois seulement la masse du Soleil.
Ouais.
Donc, on pourrait en trouver quand même théoriquement de plus massives.
On pourrait en trouver des plus massives. Il y en a, en fait, qui sont à peu près aussi lumineuses, quelques-unes même plus lumineuses que cette étoile-ci, sauf qu'elles sont dans des systèmes simples. Donc, elles ne sont pas liées gravitationnellement à une autre. On ne peut pas mesurer directement leur masse.
Mmh. Mais donc, pour l'instant, cette observation de vos collègues de l'Université de Montréal fait que leur étoile est au Guinness de l'astronomie.
Exactement, pour l'instant, oui.
Et un petit mot, Laurent, vite, vite, en terminant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des étoiles supermassives comme ça, des extrêmes, au fond? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça?
Oui, ben c'est souvent en regardant les cas extrêmes qu'on peut déterminer les limites de nos modèles,
oui.
justement. Lorsqu'on s'en tient à des étoiles ordinaires, bon, on sait que nos modèles fonctionnent à peu près, mais peut-être qu'ils peuvent flancher, justement, aux cas extrêmes, soit au cas d'étoiles très peu massives, ou au contraire, comme c'est le cas ici, dans les cas d'étoiles extrêmement massives.
Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir suivre cette belle histoire. Merci beaucoup, Laurent Drissen.
Merci, Yannick.
Et voilà, c'est tout pour notre première heure. Restez des nôtres, les années-lumière se poursuivent après le bulletin de nouvelles. Les années-lumière, deuxième heure.
Rebonjour, rebienvenue, c'est toujours Sophie-André Blondin qui vous parle. Au menu de cette deuxième heure, les singes et la démocratie. Comment nos cousins primates s'y prennent pour voter avec leurs pieds, entre autres. Un reportage fascinant de Chantal Srivastava présenté en rappel. Il y aura bien sûr le petit journal de la science. Et l'auteur de la semaine, la préhistorienne Marilène Patou-Matisse, avec son livre intitulé « Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours » aux éditions Perrin. Mais tout d'abord, la série des années-lumière. Les stars des étoiles. Tout l'été, nous soulignons l'année mondiale de l'astronomie en demandant à des astronomes d'aujourd'hui de nous raconter la vie, le parcours et les contributions d'astronomes d'hier, des célébrités de l'astronomie qui ont contribué à façonner notre compréhension de l'univers. Cette semaine, nous évoquons la vie et l'œuvre de William Herschel. Né en 1738 à Hanovre, Herschel a vécu surtout en Angleterre, où il est mort en 1822. Ses contributions sont nombreuses. Découvreur d'Uranus et de ses satellites, découvreur du rayonnement infrarouge, de l'APEX, auteur d'un catalogue d'étoiles binaires, Herschel a sa place dans la constellation des grands astronomes. Mais il tient aussi une place dans le panthéon de la musique. Entre 1759 et 1770, il a composé 24 symphonies, une douzaine de concertos, des sonates pour clavecin et de la musique religieuse. Dominique Proust, lui, est un astrophysicien français tout à fait contemporain. Il est ingénieur de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris-Meudon. Mais aussi, il est organiste. Comme il est aussi musicien, c'est à lui que nous avons fait appel pour nous raconter William Herschel.
Il était fils d'un musicien. Son père était chef de la musique militaire de garnison à Hanovre, parce que William Herschel est allemand, en fait. Il est né en Allemagne.
Est-ce qu'il a déjà un intérêt pour la chose astronomique?
Oui, probablement, parce que les écrits les plus anciens montrent quand même une aspiration à observer le ciel. Et dès l'instant où il va émigrer en Angleterre, les raisons de son émigration sont pas bien précisées, mais disons qu'essentiellement c'était pour, en tant que militaire, un certain souhait d'échapper à la conscription. Il va en Angleterre parce que le roi fou, le Crazy King, George III, est un roi de la dynastie des Hanovriens, donc de toute façon il y avait un lien privilégié pour aller en Angleterre. Dès l'instant où il exerce ses premières activités de copiste, de maître de chapelle, etc., il commence déjà à s'instruire sur l'astronomie, lire des traités d'astronomie et puis commencer à polir ses premiers miroirs.
Alors nous sommes au XVIIIe siècle. Que sait-on? Où en est l'astronomie à ce moment-là?
Au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que d'abord, le système solaire, le cosmos héliocentrique est enfin définitivement admis. On est quand même plus d'un siècle après Kepler et Galilée. Mais surtout, il y a une jeune branche qui est en train de naître à cette époque-là, c'est la cosmologie. La cosmologie vient essentiellement d'Allemagne, ce sont les écrits de Kant, et ces idées cosmologiques partent sur l'idée que l'univers en fait n'est pas infini et éternel, mais aurait eu un début sous forme d'un chaos. Kant est en fait le premier à évoquer le début d'un univers avec une sorte de Big Bang finalement.
Alors il y a cette idée de l'histoire, d'une histoire de notre univers qui est dans l'air quand Herschel pose son regard vers le ciel.
Oui, tout à fait. Oui, en fait, Herschel est plus un observateur. C'est pas vraiment un théoricien. Les travaux qu'il va faire vont toujours être des travaux sur le terrain. C'est un homme de terrain. Il construit des télescopes de plus en plus gros et il observe le ciel pour faire des découvertes.
Alors, Herschel, homme d'instrument, apporte de belles contributions au niveau des télescopes. Il en construit de très gros, de très efficaces.
Oui, de plus en plus gros, mais le premier, celui avec lequel il va découvrir une découverte majeure, c'est la découverte de la planète Uranus en 1781. C'est un télescope qui fait une vingtaine de centimètres de diamètre, il n'est pas plus gros que ça. Avec ce petit télescope, il va faire la découverte majeure qui va l'élever au titre de premier astronome royal, donc le premier astronome de la cour. C'est vraiment le fondateur de cette lignée d'astronomes attachés à la cour royale d'Angleterre.
Il continue et il construit des télescopes de plus en plus importants, de plus en plus imposants.
Oui, il va faire de nombreuses observations. Par exemple, il va découvrir deux satellites à Uranus, qui sont Titania et Oberon. Il va découvrir d'autres satellites à Saturne. Et en fait, il va faire des découvertes dans tous les domaines. Il va observer les taches du Soleil, il va observer la Lune, il va découvrir, faire des grandes observations de Mars et imaginer même que la vie peut effectivement être présente sur Mars. Et surtout, dans le domaine stellaire et extragalactique, il va faire un travail formidable. Il va découvrir plusieurs centaines de galaxies. Et pour lui, la question ne se pose pas. Ces petites taches floues qui étaient observées par les jeunes cosmologistes, par Kant, etc., ce que Kant appelait des univers-îles, pour Herschel, ce sont des voies lactées comme notre voie lactée qui sont beaucoup plus loin. Quant à notre voie lactée elle-même, il est le premier à en donner une forme avec non pas des bras spiraux mais des extensions, des séparations et à placer le Soleil, à excentrer le Soleil dans notre voie lactée.
Alors son intuition était la bonne?
Ah oui, oui, oui. Et surtout une découverte absolument majeure qui est de toute façon aussi importante que la découverte d'Uranus, c'est en 1800, il va faire de la spectroscopie. Et le long du spectre du Soleil, il va poser des thermomètres pour mesurer la température dans chaque couleur, donc du bleu courte longueur d'onde vers le rouge. Et il va continuer de placer des thermomètres au-delà du rouge et il va s'apercevoir qu'il y a un rayonnement au-delà du rouge, et il va découvrir comme ça l'infrarouge. Donc ça, c'est quand même une des découvertes les plus majeures de la science qui aura été faite par Herschel, oui.
Autre découverte majeure, autre champ d'intérêt particulier de William Herschel, Dominique Proust, ce sont les étoiles binaires.
Oui, il va observer les étoiles binaires et de proche en proche, il va faire des distinctions entre ce qu'il pense être des couples optiques, c'est-à-dire des effets d'alignement de deux étoiles, une qui est beaucoup plus loin que l'autre, qui n'ont aucune interaction. Deux couples physiques, ce sont des systèmes binaires, donc des étoiles qui sont en révolution mutuelle autour d'un centre de gravité, au même titre que les planètes tournent autour du Soleil et le Soleil tourne autour d'un même centre de gravité. Donc la mécanique des étoiles doubles va être enclenché par Herschel, et c'est d'ailleurs, connaissant les distances et les périodes, ça sera pour la jeune astrophysique du XXe siècle un moyen de commencer à s'intéresser à l'évolution stellaire, à peser les étoiles, à en déterminer les masses, etc.
William Herschel, si la musique était une affaire de famille pour lui parce qu'il venait d'une famille de musiciens, l'astronomie aussi est devenue une histoire de famille parce qu'il travaillait avec sa sœur.
Oui, il travaille avec sa sœur, donc il fait venir Caroline, qui lui sert, replaçons-nous, on lui dit qu'elle était son assistante, peut-être l'exploitait-il, mais dans le contexte 18e siècle, il faut replacer le contexte social, la relation homme-femme bien sûr, mais Caroline donc, avait deux activités, d'abord elle chantait des compositions d'Herschel, des motets, etc., et d'autre part elle l'aidait dans ses observations, mais elle va quand même à elle seule découvrir plusieurs comètes dont elle porte la maternité, si je puis dire. Et plus tard, Herschel, qui était destiné un peu à être célibataire, va finir par tomber amoureux de sa logeuse, ou amour, peut-être pas fusion, mais amour raisonné. Ils ont un enfant, un garçon, qui est John Herschel, et qui sera aussi un des très grands astronomes, qui va plutôt observer dans l'hémisphère austral, faire des grands catalogues de galaxies. Je crois qu'il y a 2400 galaxies découvertes par John Herschel. Et ce John Herschel va vivre 99 ans d'ailleurs. Et ce qui est quelque chose de tout à fait remarquable, c'est qu'il sera un des premiers à utiliser les premières émulsions photographiques et photographier les restes d'un télescope de son père. Ça, c'est un document assez extraordinaire que l'on voit de temps en temps, une vieille plaque au collodion qui montre un télescope de William Herschel photographié par son fils.
Et c'était un télescope immense. Son plus grand télescope avait 12 mètres de focale. C'était un monstre.
Oui, c'est le miroir principal qui jouait, faisait la focalisation, c'est-à-dire qu'en fait l'astronome observait au bout du tube et glissait son œil presque, passait la tête presque dans le télescope pour pouvoir observer. Il n'y avait pas de renvoi sur le côté ou de renvoi, ce qu'on appelle le système casse-grain axial avec un trou dans le grand miroir. Et ce grand télescope, le miroir final va avoir plus d'un mètre vingt de diamètre, je crois que c'est un mètre vingt ou un mètre quarante, je ne me souviens plus très bien, mais ça va être le plus grand télescope, et à l'époque, c'est le plus grand télescope au monde, oui.
Il doit tenir avec des échafaudages, les dessins, les gravures qu'on voit, les quelques photos, il y a tout un échafaudage autour pour tenir l'instrument.
Ah ben, il y a tout un jeu de poulies, ça ressemble à, c'est monté sur une sorte de grand tétraèdre, et puis ce tétraèdre est placé sur une plateforme qui peut tourner, qui est en rotation, et ce tétraèdre, donc il y a les deux mouvements, azimut et hauteur, ce ne sont pas des montures équatoriales comme on va utiliser plus tard, ce sont encore des montures azimutales, donc il faut corriger au fur et à mesure des observations, compenser la rotation de la Terre, mais en agissant sur les deux axes verticaux et horizontaux, comme on le fait maintenant d'ailleurs avec les très très grands télescopes, mais là c'est pris en charge par des ordinateurs.
Et il fallait physiquement que William Herschel grimpe dans son télescope et il dictait ses observations à sa sœur Caroline un peu plus bas.
Alors, il y a un témoin des observations d'Herschel, qui est un témoin inattendu, qui est simplement Joseph Haydn, le célèbre compositeur. Lors de son dernier voyage londonien, il va rendre visite à William Herschel, et dans son livre personnel, où il met toutes ses notes, il dit qu'il est très étonné de voir que M. Herschel est capable d'observer dans le froid le plus vif, sans mettre une petite laine, sans se couvrir, toujours de bonne humeur, en train de dicter à sa sœur ses observations. C'est passionnant à lire. Et d'ailleurs, Haydn va rester 3 jours et 3 nuits avec Herschel. Il dit même qu'ils vont chanter des psaumes ensemble au pied du télescope. Et curieusement, ils vont s'entretenir probablement des jeunes idées de la jeune cosmologie kantienne. Et lorsque Haydn retourne en Autriche, il va composer quand même l'oratorio La Création avec le célèbre passage Und es ward Licht, et ce fut la lumière, avec un fortissimo sur le mot Licht qui illustre le chaos, le Big Bang.
Si on parlait de l'héritage d'Herschel, que reste-t-il dans l'astronomie, l'astrophysique, la cosmologie d'aujourd'hui des travaux de William Herschel?
Surtout des données observationnelles très nombreuses, des positions de galaxies, des méthodes aussi de travail. Par exemple, il va définir l'apex. Alors, l'apex, c'est une direction dans notre voie lactée vers laquelle comme tout tourne et comme la Terre se déplace, le système solaire se déplace par rapport aux étoiles et notre galaxie elle-même effectue une rotation en 240 millions d'années au niveau du Soleil, ce sont des données que Herschel va déjà, non pas donner comme valeur avec précision, mais qu'il va suggérer. Et ce mouvement d'apex, ce mouvement en direction de la constellation d'Hercule de la Terre, il va déjà le suggérer à partir d'observations extrêmement minutieuses. Donc c'est toute la dynamique stellaire et la dynamique de notre galaxie ont été impulsées par Herschel. Il a touché à tout, au point de vue astronomique.
Et s'il reste un peu dans nos vies, dans nos mémoires maintenant, c'est que qui un télescope, qui un télescope spatial, on a nommé des instruments d'observation à la mémoire de William Herschel.
Oui, et surtout, le télescope Herschel est en plus un hommage aux découvreurs du rayonnement infrarouge, puisque c'est un télescope qui est destiné à travailler dans l'infrarouge, donc qui va amener énormément d'informations. Les deux satellites Planck et Herschel travaillera exclusivement dans ce domaine de longueur d'onde. Oui, c'est un hommage qui est rendu à l'astronome.
Et ce sont des satellites qui viennent d'être lancés et qui vont commencer dans la prochaine année à ouvrir les yeux et à nous en apprendre un peu plus sur l'origine de l'univers.
Oui, exactement. Et l'Agence européenne a fait d'ailleurs un travail de diffusion des connaissances en réalisant des documents, par exemple sur les satellites Planck et Herschel, qui ont été diffusés largement en Europe. Et quand on écoute la description de ce satellite télescope Herschel, on a en fond de la musique composée par Herschel.
Ben, merci beaucoup, Dominique Proust, d'avoir éclairé nos lanternes au sujet de William Herschel.
Bien, je vous remercie. Merci à vous.
C'était la musique de William Herschel, bien sûr, et les propos de Dominique Proust, astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon. La semaine prochaine, Giovanni Domenico Cassini, mort en 1712, premier d'une dynastie d'astronomes qui a régné pendant 4 générations sur l'Observatoire de Paris.
Comment combiner les plaisirs de la table et l'efficacité énergétique? En Dordogne, en France, une ferme expérimentale d'élevage et de gavage d'oies qui fait du foie gras a décidé de fabriquer de l'électricité à partir des déjections produites par les oies. Il s'agit d'une cuve en inox appelée le digesteur qui récupérera lisier et fumier et qui produira jusqu'à 400 mètres cubes de méthane par mois. Ce méthane alimentera un groupe électrogène qui aura une capacité de 25 kWh, ce qui est largement suffisant pour fournir les besoins en électricité des bâtiments où sont logés les oies. Les surplus d'électricité, évalués à 40%, seront revendus. Ce système entrera en fonction en septembre. Il aura coûté 400 000 $ et sera financé à 80% par les pouvoirs publics. Les responsables de la ferme espèrent amortir leur investissement en 6 ans. Le point faible, les petits exploitants ne pourront pas accéder à cette technologie car elle est trop chère et ne serait pas rentable pour eux.
Si l'humain balance les bras en marchant, ce n'est pas une réminiscence de son ancienne vie de quadrupède, mais plutôt une économie d'énergie. Des scientifiques britanniques en ont fait la démonstration grâce à 10 volontaires auxquels ils ont demandé d'adopter différentes démarches. D'abord, balancer les bras normalement, puis le faire à l'envers, le bras gauche avance en même temps que la jambe gauche et inversement, et enfin marcher les bras croisés ou figés le long du corps. Ils ont ensuite calculé le coût métabolique de ces démarches à partir de la consommation d'oxygène et de la production de gaz carbonique des cobayes. Les chercheurs concluent que le balancement naturel des bras est économe car il demande peu de torsion des épaules. De plus, il atténue le gaspillage d'énergie provoqué par le mouvement vertical du corps pendant la marche. À l'inverse, retenir ses bras en marchant demande 12% plus d'énergie. Quant à la marche à l'allure robotique, qui consiste à avancer le bras et la jambe du même côté à la fois, elle réduit l'énergie dépensée au niveau des épaules, mais augmente celle consommée par les jambes. Ces travaux sont publiés dans les Proceedings of the Royal Society B. «
Comment mesurer le bonheur? Des générations de chercheurs s'y sont appliquées sans réussir à trouver une méthode ou un instrument qui évalue objectivement le sentiment de bonheur. Le premier obstacle auquel ils font face, eux-mêmes. À la vue d'une personne qui les interroge sur leurs sentiments, crayon en main, les réponses des cobayes ont tendance à se modifier. Mais voilà qu'un mathématicien et un informaticien du Vermont ont élaboré un instrument qui mesure à distance et à leur insu le degré de bonheur de millions de personnes partout dans le monde. Peter Dodds et Chris Danford ont identifié des mots-clés et leur puissant outil de recherche informatique balaie plus de 2 millions de blogs à la recherche de ces mots. Selon leur méthode, le bonheur collectif fut à son comble le 4 novembre 2008 lors de l'élection de Barack Obama. Alors que la tristesse a pris le dessus le jour de la mort de Michael Jackson. Les données recueillies font conclure aux chercheurs que le bonheur a un âge. Les adolescents sont plus malheureux que leurs parents. Ces données suggèrent toutefois que le bonheur a aussi une langue, l'anglais, et un pays, la planète Web. Il n'y a pas que l'encre et le papier pour voter, ou même l'ordinateur à la limite. Il y a les pieds aussi. Chez les singes, en tout cas, c'est un peu comme ça que la démocratie se passe. C'est ce qu'on apprenait dans un reportage de Chantal Srivastava qui nous expliquait aussi comment nos cousins primates ont eux aussi le sens du partage et la capacité de montrer de l'empathie. C'est donc avec plaisir qu'on vous présente à nouveau ce reportage.
L'homme pense qu'il est l'apanage de nombreux comportements, mais si on arrive à démontrer que des espèces non humaines sont capables de démontrer ces comportements-là, ceci veut dire qu'il n'y a pas de domaine réservé à l'homme.
Depuis de nombreuses années, Odile Petit étudie le comportement des singes au Centre d'éthologie des primates de Strasbourg, en France. C'est là qu'elle a pu observer comment les macaques de Tonkéan, originaires de l'île de Sulawesi en Indonésie, parviennent à s'entendre pour choisir à l'unanimité la direction à prendre lors de leur déplacement collectif. Un comportement rempli de sagesse qui vise avant tout à éviter les conflits et à favoriser le mieux-être de tous les animaux.
Très souvent, dans la majorité des cas, vous avez des individus qui vont commencer à se lever, à avancer, faire quelques mètres, puis continuer quand même à regarder vers l'arrière du groupe. Puis vous en avez allez en avoir un, deux, trois. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui va se comporter de manière un peu plus particulière, c'est-à-dire qui va se déplacer d'un seul coup beaucoup plus vite, qui va traverser le groupe, va sortir du groupe et montrer une direction. Et là, la plupart du temps, il est suivi. Et ce phénomène disons que la période qui précède ce départ est très importante. Tous ces individus qui sont en train de se préparer à bouger vont vraiment faciliter le mouvement. Si personne ne s'est vraiment levé, très franchement, l'individu qui va partir d'un seul coup et traverser le groupe, il y a assez peu de chances qu'il soit suivi, donc il va revenir. Toujours pour pouvoir préserver cette cohésion du groupe. Et donc, nous, on étudie et cette période préliminaire et tout le processus de comment les uns et les autres décident d'adhérer au mouvement. Alors, donc, nous, on a observé dans 10% des cas, donc ce qui est quand même très, très rare, quelque chose d'absolument fabuleux, c'est que dans ces 10% des cas, nous avions des individus qui décidaient de proposer deux directions différentes de déplacement. Donc là, on était vraiment face à un choix. Les animaux étaient face à un choix. Ils devaient choisir soit aller à droite, soit aller à gauche. Je schématise. Hein,
oui.
La droite, la gauche n'ont pas vraiment d'équivalent comme dans la société humaine. Et donc, les animaux, vous aviez donc des animaux qui commençaient à manifester l'intention de partir dans telle ou telle direction, mais toujours avec ces comportements de préparation. Et le reste du groupe devait décider s'ils allaient suivre l'un ou l'autre des individus qui proposaient. Et on s'est rendu compte qu'on ne suit pas forcément l'individu dominant qui a proposé une certaine direction en négligeant l'individu dominé. On ne suit pas forcément l'individu le plus âgé en se disant que l'individu qui est jeune propose une direction non intéressante, on s'est rendu compte que plus il y avait d'individus qui proposaient la future direction du déplacement, eh bien, cette direction allait être choisie par la majorité du groupe. Donc on était vraiment dans le cas d'école où quand un groupe est confronté à deux directions, il finit par aboutir à une décision unique avec une direction et un moment de partir qui est commun à l'ensemble des membres du groupe.
Ça ressemble un peu à la démocratie, c'est comme s'ils votaient avec leurs pieds.
Alors c'est exactement ça. L'expression « voter avec ses pieds », c'est une expression qui a été utilisée il y a très longtemps par Hans Kummer sur les babouins amadrias, où tous les matins, au moment de partir, les amadrias vivent en grandes troupes qui sont en fin de compte composées de harems. Vous avez un mâle avec les différentes femelles qui appartiennent à ce mâle. Et tous les matins, chaque mâle commençait à avancer dans une direction, suivi par ses femelles. Et les mâles de certaines unités allaient notifier, c'est vraiment le nom du comportement, aux autres mâles, la direction à suivre en se positionnant avec donc les pieds et la posture dans la direction à suivre. Et au fur et à mesure, ils arrivaient à rallier différents mâles de différentes unités et les femelles qui les accompagnaient. Et finalement, ils l'emportaient et c'est leur direction qui était choisie par l'ensemble du groupe. Mais c'est un peu ça, nos individus, ils votent, ils expriment une opinion, une direction. Et plus ils sont nombreux à exprimer une certaine direction, et ben plus le reste du groupe va être tenté de suivre cette direction-là. On a observé ça chez les macaques de Tonkéan, chez deux groupes, donc ça veut dire que nos résultats sont vraiment robustes. Et cette espèce est très particulière. Nous pensons que si jamais il y a une possibilité d'exprimer son opinion, de voter et d'arriver à des consensus démocratiques de cette manière, c'est parce que cette espèce a un style social très particulier. On dit qu'elle est égalitaire, c'est-à-dire que tous les membres du groupe vont pouvoir agir et interagir avec l'ensemble des autres individus qui composent le groupe. On a bien évidemment une hiérarchie de dominance entre les individus, on a une importance des relations de parenté, mais finalement, ces structures de dominance et de parenté n'ont pas tant d'importance que ça dans la distribution des interactions. On va avoir de bonnes relations avec tous les membres du groupe. C'est ce qui fait qu'on va facilement suivre l'un ou l'autre, quel que soit son statut hiérarchique ou son statut social.
Est-ce que c'est une forme d'organisation qui est commune à toutes les espèces de macaques ou il y a des exceptions où le régime est plus dictatorial, Madame Petit?
Alors, on classiquement répartit les espèces de macaques sur un continuum allant d'espèces très hiérarchisées, comme le macaque rhesus, le macaque japonais, à des espèces très tolérantes et très égalitaires, comme le macaque de Tonkéan et toutes les espèces qui vivent dans l'île de Sulawesi en Indonésie. Donc non, toutes les espèces de macaques n'ont pas ce style social très égalitaire. Elles sont cependant toutes caractérisées par une organisation multimâle, multifemelle et de clans matrilinéaires. Donc on a cette diversité d'organisations sociales, de styles sociaux, et l'ensemble des interactions que nous, on va observer en tant qu'éthologistes, vont être vraiment contraintes par ce style social. Par exemple, dans une réconciliation après un conflit, cette réconciliation va être très rare chez les macaques rhesus ou strictement entre individus apparentés. Vous allez avoir plus de 60% de réconciliation après les conflits chez les macaques de Tonkéan. Pourquoi ? Parce que chez les macaques de Tonkéan, on a des bonnes relations avec tout le monde et avoir un conflit, c'est mettre en danger sa relation, donc il faut la réparer. Chez le macaque rhesus, on a des bonnes relations quasiment qu'avec ses individus apparentés. Donc on ne va pas se réconcilier quand on a un conflit avec un non-apparenté. On va se concentrer sur les individus de sa famille.
Qu'est-ce qui détermine la filière sociale choisie selon les espèces, Madame Petit? Est-ce qu'on a des hypothèses à cet égard-là?
Alors on a des hypothèses, mais il est clair qu'on ne peut pas remonter le temps. Il est très probable que l'évolution de ces différents styles sociaux s'est faite il y a des millions d'années. Alors on pense qu'il y a une composante écologique, une influence de l'environnement il y a des millions d'années. Si vous faites la corrélation à ce jour, le macaque rhesus vit dans des milieux très différents et pourtant il a toujours le même style social. Cependant, on se rend compte qu'on a une espèce de phylogénie de ces styles sociaux et que l'ancêtre commun à plusieurs espèces de macaques possédait déjà, a priori, les mêmes caractéristiques sociales. Mais le tout début, quelque part, je ne suis pas sûre qu'on aura un jour la réponse. Vous savez, notre problème dans le comportement, c'est que le comportement, il n'y a pas de traces, si jamais il n'y a pas, par exemple, comme dans les sociétés humaines, des traces de poterie ou de foyer où on allumait du feu ou de grottes qu'on habitait. On n'a pas vraiment ça. Donc le comportement, c'est vraiment quelque chose qu'il est difficile de retracer.
Est-ce qu'on a des hypothèses quant à un éventuel avantage évolutif ou des théories qui expliqueraient pourquoi le macaque rhésus est plus dictatorial alors que les macaques de Tonkéan sont plus démocratiques?
Il est clair que dans un environnement très demandeur où, par exemple, il ne va pas falloir se tromper sur une direction à suivre, où il va falloir vraiment être très vigilant vis-à-vis de la prédation, des individus jeunes vont avoir du mal à proposer et surtout à proposer des bons choix écologiques. Donc dans ce sens-là, on se dit, dans ces cas-là, on se dit qu'évidemment un individu très dominant ou très expérimenté, donc plutôt âgé, va avoir plus d'influence sociale qu'un jeune. Mais là, c'est vraiment le milieu qui va le conditionner. Après, chez les macaques de Tonkéan, c'est des espèces qui vivent dans une île où il y a très peu de prédation. D'ailleurs, ils vont souvent au sol fourrager. Alors, si j'accepte la prédation due à l'homme. Et donc, tous les individus vont pouvoir exprimer leur opinion parce que c'est pas très, très grave pour eux, en fait. On peut pas vraiment se tromper. Donc ça, c'est déjà une des causes qui fait qu'actuellement ce système social perdurerait. Maintenant, il y a aussi, vous êtes né dans un système social, il y a des règles, vous les suivez. Donc ça va perdurer année après année. C'est ce qu'on appelle la culture et c'est la même chose. Donc il n'y a pas de raison, à moins d'un changement majeur qui serait principalement écologique, probablement, pour que les choses changent dans ces systèmes sociaux.
En étudiant les singes, les éthologistes espèrent en apprendre un peu plus sur les comportements des humains. Les humains qui n'ont pas le monopole des émotions nobles, telles l'empathie.
Pendant longtemps, c'était dit que les animaux, ils sont des brutes, ils sont agressifs, compétitifs. Et nous, les hommes, on a des choses plus nobles, comme notre compassion et tout ça. Et moi, je suis très intéressé dans l'empathie chez les animaux.
Franz De Waal travaille à l'université Emory, près d'Atlanta, en Géorgie. Ce primatologue réputé a été un des premiers à évaluer comment les émotions influencent le comportement des singes. Membre de l'Académie américaine des sciences, il vient tout juste de publier dans les Proceedings of the National Academy of Sciences une étude remarquée sur l'empathie chez le capucin brun.
L'étude qu'on a faite, c'est une étude avec des singes capucins qu'on a donné un choix. Ils peuvent choisir soit se donner quelque chose à eux-mêmes, et ils sont avec un autre compagnon, ou ils peuvent faire un choix qui donne de la nourriture à tous les deux à le même moment. La plupart de temps, quand ils sont avec un compagnon qu'ils connaissent au moins, la plupart du temps, ils choisissent la solution qui donne la nourriture à les deux. Alors, ils préfèrent, en fait, manger avec quelqu'un d'autre à côté qui mange aussi, que manger tout seul. Ça veut dire que ça leur donne une certaine satisfaction, soit de donner la nourriture à un autre, soit de manger à le même moment qu'un autre. Alors, on ne sait pas exactement quel des deux, mais c'est en termes humains, on pense ça faire avec l'empathie entre les individus. Ça veut dire qu'il y a une certaine satisfaction de voir le plaisir que quelqu'un d'autre a. Et chez les gens, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites avec les hommes, bien sûr. Et on a trouvé, par exemple, que dans le cerveau, il y a certains centres de satisfaction qui allument quand les gens font quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors, le même genre de satisfaction, on peut démontrer dans les gens.
L'adage dit en effet que le plaisir, c'est de donner et non de recevoir. Sauf que le capucin brun doit le voir pour le croire. C'est ce qu'a pu constater Franz de Waal lorsqu'il a répété la même expérience en séparant les deux petits singes par une cloison opaque.
Ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre à l'autre côté, ils ne peuvent pas le voir et ils ne font plus leur truc altruiste et ils mangent seuls et ils font ça seulement pour eux. Alors le fait qu'ils ne peuvent pas voir l'autre fait disparaître cette réponse-là. C'est intéressant parce que chez les gens, je ne pense pas que ce serait le cas. Nous, on peut imaginer, on a une plus grande imagination que les singes. On peut s'imaginer que si on donne la nourriture à l'autre, ça doit être bien pour l'autre. Mais je crois que pour les singes, il faut le voir. Ils veulent le voir. Et s'ils sont incapables de voir l'autre, ils font plus cette réaction-là.
Et si l'autre reçoit une plus belle récompense?
Ah, là, ça, ils n'aiment pas. Ils sont, dans ce sens-là, ils sont égoïstes. Ils veulent bien donner quelque chose à l'autre si c'est la même chose qu'eux reçoivent. Mais si ça devient plus attirant, comme par exemple un raisin, ça, c'est plus intéressant qu'un morceau de pomme. Là, ils ne sont pas si contents et ils ne le font plus. Et là, on avait déjà remarqué dans d'autres expériences qu'on a fait avant que les singes, ils sont très sensibles, comme les enfants en fait, comme les enfants humains. Ils sont très sensibles qu'est-ce que eux reçoivent comparé avec quelqu'un d'autre. Ils comparent. Et ça c'est une très grande découverte parce que jusqu'à ce moment-là, tout le monde pensait que le sense of fairness, comme on dit en anglais, fairness, je ne sais pas quoi.
La justice, l'honnêteté, que ce
oui,
soit juste.
La justice peut-être que ça existe seulement chez l'homme, mais en fait, on a trouvé que les singes sont très sensibles à ça qu'eux reçoivent comparé avec quelqu'un d'autre.
Comme un petit enfant qui dit « c'est pas juste, mon petit frère en a plus que moi ».
Oui, oui, c'est exactement ça. Ils font toujours ça, les enfants. Et ça, c'est la première réaction des singes aussi.
Vous parliez d'empathie, M. de Waal. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler de charité?
Charité? Ça, je ne suis pas sûr, parce que dans notre expérience qu'on a faite, le singe qui fait le choix a toujours quelque chose. Alors, on a deux petits morceaux de pomme qu'on donne à les deux singes, et le singe qui fait le choix va toujours avoir un petit morceau de pomme. Alors, la différence, c'est que l'autre va l'avoir aussi ou non. Alors, charité, ça va plus loin, parce que là, on donne quelque chose à quelqu'un d'autre de toi. Tu as quelque chose et tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est plus complexe, je crois, que ça, c'est plutôt compassion. Mais ils font ça quelquefois aussi, hein, pas dans notre expérience, mais dans la nature, ils font ça, ils trouvent de la nourriture, ils appellent les autres et ils partagent ça.
Ce sont aussi des animaux sociaux comme nous qui vivent en communauté. Est-ce qu'il n'y a pas également une notion du plus grand bien commun derrière cette empathie-là?
Ça, on trouve chez les grands singes, pas forcément chez les petits singes, mais chez les grands singes, chez le chimpanzé, par exemple, on trouve des individus adultes, c'est pas les jeunes qui font ça, mais les individus adultes, âgés, qui prennent une certaine responsabilité pour le groupe, qui, par exemple, défendent le groupe, mais aussi qui arrêtent des conflits dans le groupe, et qui essayent de partager la nourriture pour le groupe, qui prennent une certaine responsabilité. Par exemple, une autre chose qu'ils font, c'est de vieilles femelles, quelquefois, s'il y a un grand bagarre entre le mâle, ils essayent de réconcilier les mâles. Ils prennent un mâle par la main vers l'autre, ils le mettent ensemble, ils essayent de faire une réconciliation entre eux. Ça sont des choses qui sont très intéressantes et qui montrent qu'au moins des individus avec beaucoup d'expérience, ils savent qu'est-ce qui est bien pour la communauté et ils essayent de réussir là-dedans.
Dans la jungle, les vieux singes expérimentés savent donc faire régner la bonne entente au sein de leur communauté. De quoi rêver qu'un jour, cette loi de la jungle ait droit de cité au Parlement canadien.
C'était un reportage de Chantal Srivastava. C'est maintenant le tour de l'auteur de la semaine. Le titre de son livre « Mangeur de viande de la préhistoire à nos jours » paru aux éditions Perrin. Et l'auteur, c'est Marilène Patou-Matisse, qui est préhistorienne et responsable de l'unité d'archéozoologie du département préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. La viande fait partie de la diète de l'être humain depuis des millions d'années. Pour se la procurer, nos ancêtres ont dû apprendre à chasser. Avec le temps, ils ont développé des techniques de chasse de plus en plus sophistiquées, ce qui a contribué largement à leur développement, à leur socialisation. Notre collègue Hugues de Roussan s'est entretenu avec l'auteur Marilène Patou-Matisse.
C'est très lointain. L'origine de l'alimentation carnée remonte à très loin, puisque déjà, parmi les Australopithèques, c'est-à-dire il y a à peu près 3 millions d'années, certains ont commencé à manger un petit peu de viande. Alors bien sûr, cette viande, ce n'est pas du tout la viande de mammifères, c'était surtout des insectes. Donc ils ont commencé petit à petit à incorporer dans leur alimentation de la viande. Et on voit au cours de l'évolution, au cours de l'hominisation, on voit que cette part de la viande devient de plus en plus importante et que parallèlement, donc les hominidés qui vont se succéder vont avoir un cerveau qui va se développer. Il va y avoir des savoir-faire nouveaux, comme la taille des outils, qui est probablement associée pour les premiers outils à la découpe de la proie, à la découpe de l'animal, pour prélever justement cette viande dont il se nourrissait.
Est-ce qu'il est passé de son régime végétarien à un régime comprenant des insectes par mimétisme en voyant les autres espèces animales, ou c'était parce que c'était un besoin physiologique qui se faisait ressentir?
On est issu, bien sûr, on est du règne animal et on est issu de la même famille que les grands chimpanzés et les gorilles et les grands singes. Et donc, il y avait déjà dans leur alimentation à ces ancêtres de ces chimpanzés notamment, déjà certains qui consommaient un peu plus de viande et notamment donc d'insectes. Alors je pense que c'était quelque chose qui est un petit peu dans les gènes de notre grande famille de primates.
La chasse est quelque chose de technique et peut même être assez compliqué selon le type de gibier qu'on veut chasser. Donc ça demande une certaine cohésion sociale. Comment tout ça s'est mis en place?
Alors c'est ça qui est intéressant, puisque on voit très bien que avec les premiers homo, qui sont les Homo habilis, on voit que déjà on a des ossements d'animaux, de mammifères, de petits mammifères, petites antilopes, des sortes de lapins. Et puis au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'après avec leurs successeurs qui vont être les Homo erectus, c'est les premiers qui vont partir après hors de l'Afrique, on voit là aussi que dans les campements il y a de plus en plus d'os de grands mammifères. Et alors avec les Néandertaliens notamment et les Cro-Magnons, nos ancêtres. Alors là, c'est vraiment une chasse qui est déjà très élaborée. On le voit à travers notamment la sélection du gibier. Ce sont surtout certaines espèces qui sont chassées. On voit très bien que déjà, vous avez des chasseurs de bisons, des chasseurs de rennes, des chasseurs de chevaux. Donc, ils se sont déjà spécialisés. Et ça, c'est très important parce que cette chasse va, à mon avis, développer vraiment la structure sociale. Pourquoi? Parce que premièrement, déjà, pour aller à la chasse, pour qu'il y ait une réussite, il faut qu'il y ait une collaboration entre tous les membres du clan. Il faut aussi qu'il y ait un résultat patent, c'est-à-dire un partage équitable de la proie. Donc la notion de partage est très liée donc, à cette chasse, au produit en tout cas de cette chasse. Il va y avoir aussi la division des tâches qui va commencer. Il va y avoir ceux qui vont tailler les outils, les armes, ceux qui vont préparer la nourriture, ceux qui vont aller chasser. Alors je ne dis pas, parce qu'on ne le sait pas pour les hommes préhistoriques, je ne dis pas la division sexuelle du travail. Je ne dis pas que, comme on a pu voir plus tard avec les chasseurs-cueilleurs qu'on connaît bien, les Inuits, les aborigènes d'Australie, etc., on n'a pas cette séparation claire, on ne peut pas la mettre en évidence. Juste un petit exemple pour dire que ce n'était pas le cas d'ailleurs, c'est les Néandertaliens, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les Néandertaliens, j'ai fait un ouvrage sur eux. Et les Néandertaliens, quand on regarde leur anatomie, ils sont très musculaires, vraiment, ils ont un développement des muscles très forts, notamment pour le lancer. Et on voit qu'ils lançaient très fort et très loin. Et cette insertion musculaire très forte, on la retrouve aussi bien sur des squelettes masculins que féminins. Donc vous voyez, c'est peut-être pas si simple et que cette division sexuelle est peut-être plus tardive et peut-être venue avec les premiers éleveurs.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que sans la chasse, il n'y aurait pas eu de développement de l'être humain tel qu'on le conçoit maintenant?
Je suis favorable à cette hypothèse. Bien sûr, on est dans le domaine de l'hypothèse. Mais je suis favorable parce que je pense que c'était extrêmement structurant. Plusieurs niveaux. Premièrement, ça a développé déjà au niveau des aptitudes physiques. Hein, pour chasser, il faut savoir se déplacer rapidement, il faut avoir le regard perçant, il faut avoir l'ouïe fine. Bref, il faut avoir des aptitudes très importantes, physiques et aussi cognitives, puisqu'il faut mettre en marche des stratégies sophistiquées, parce que vous savez, c'est pas facile de chasser, surtout avec leur armement, qui n'était pas des armes à feu, qui était un armement relativement rudimentaire, hein, des sagaies, et même avant d'ailleurs, c'était simplement des lances, des épieux, et puis après des sagaies lancées au propulseur par les Cro-Magnons. Donc il y a ce développement aussi cognitif. Après, nous avons aussi le fait qu'il y a un apprentissage, c'est-à-dire qu'on va apprendre à tailler les outils, pour à tailler les armes. Donc là aussi, cohésion du groupe, on apprend. On a un savoir-faire qui va de plus en plus s'améliorer. On voit très bien que l'armement se perfectionne, que les outils pour découper les proies se perfectionnent. Donc, il y a aussi l'amélioration du savoir-faire. Mais ce qui est très important, et c'est là qu'on est différent des autres prédateurs que sont les carnivores sociaux, par exemple les lions et autres, c'est que nous, il va y avoir tout de suite un phénomène culturel qui va être attaché à la chasse. C'est-à-dire qu'il va y avoir le fait qu'on chasse un animal. Et cet animal est très important à cette période-là parce que les hommes sont dans la nature, les hommes sont des animaux avec d'autres animaux. Et donc, il y a une espèce de confrontation entre les espèces quasi semblables. C'est-à-dire que pour eux, on le voit bien chez les chasseurs-cueilleurs, même très tardivement du 19e siècle, où il y a un rapport à l'animal qui est complètement différent de nos sociétés, dans nos sociétés. C'est-à-dire que là, c'est le quasi semblable qu'on doit tuer. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut inventer des rituels. Et toutes les chasses ancestrales, traditionnelles, sont toujours accompagnées de rituels. Avant la chasse, on prépare des incantations. Pendant la chasse, il y a le respect de l'animal, on ne tue pas plus que nécessaire, on ne le fait pas souffrir. Et après la chasse, évidemment, là aussi, au moment du partage, c'est tout ritualisé. Donc beaucoup de rituels. À partir de ça, va se créer aussi toute la symbolique, toute la mythologie, toute la cosmogonie. Et on voit que pendant toutes les périodes, jusqu'à à peu près 10 000 ans, les animaux qui vont être représentés, qui vont être sculptés par les hommes préhistoriques sont partout. Il n'y a pas ni soleil, ni lune, ni végétaux, ce sont soit des hommes ou les représentations sexuelles, soit des animaux.
La viande est peut-être l'aliment qui a le plus de tabous dans l'histoire des peuples. Encore aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on ne peut pas manger certaines viandes, où on ne peut la manger que préparée d'une certaine façon.
Je pense que c'est pour deux raisons. La viande est issue d'un animal. Et on voit très bien que le rapport à cet animal est très fort et c'est un rapport de proximité. Plus l'animal est éloigné de nous, par exemple les insectes, il y a très peu de gens qui pleurent sur la mortalité des insectes, bien qu'on défende la biodiversité, c'est un autre problème. Mais toujours est-il que on va moins pleurer que si on va tuer ou martyriser un cheval. Les poissons également sont un petit peu perçus différemment. Donc on voit bien que c'est ce degré de proximité par rapport à l'animal. Et la deuxième chose, c'est que la viande, il y a le sang. Et que ça aussi, c'est porteur de symboles très forts, à la fois pour certains négatifs et pour certains positifs. Négatif, c'est le sang, c'est bon, faire couler le sang. Enfin, on voit tout de suite le côté morbide de la chose. Ça se voit, le sang qui coule quand on blesse un animal. Bon. Et il y a aussi, pour certains, par contre, c'est le signe de virilité, de force. C'est quelque chose là pour d'autres peuples, c'est quelque chose de très très fort. Et le sang entre dans beaucoup de compositions de repas chez ces peuples qui mangent peut-être de la viande, pas seulement parce qu'il y a du sang, mais aussi parce qu'il y a du sang.
Il y a environ 10 000 ans, peut-être 12 000 ans, les premières civilisations qui ont domestiqué les animaux, qui ont mis en place l'agriculture sont apparues. Ça a complètement changé le rapport à la chasse, le rapport à la viande sauvage. Est-ce que ça a été la fin d'un monde pour l'apparition de nouveaux?
En tout cas pour une partie, hein, parce qu'il faut bien voir que les chasseurs-cueilleurs sont restés les plus nombreux pendant très longtemps. Hein. Même quand il y avait déjà des éleveurs, il y avait quand même des parties entières de continents où il y avait encore, par exemple je prends l'Australie, où il y avait encore vraiment que des chasseurs-cueilleurs. Donc il y a une partie, c'est vrai, qui s'est mise à l'agriculture, qui s'est mise à l'élevage. Et donc là, évidemment, ces sociétés se sont transformées. Et petit à petit aussi, l'homme va s'éloigner de l'animal, va se différencier. Et malheureusement, j'ose dire, va considérer à un moment donné l'animal comme inférieur, qui peut être dominé, qui peut être martyrisé. Et c'est là, ça déclenche des processus qui ont amené à certains excès qu'on peut voir encore actuellement.
Avec l'agriculture et l'élevage, est venu le sédentarisme, est venu aussi l'accumulation des richesses et des stocks, est venu aussi la hiérarchisation, est venu aussi l'inégalité des classes. C'est un changement profond.
Pour moi, c'est fondamental. C'est vrai que moi, mes amis se moquent un peu, mes collègues se moquent un peu de moi, parce que je suis très chasseur-cueilleur. Hein. C'est-à-dire que je trouve que c'était un mode de société qui avait trouvé un équilibre, parce qu'elle a duré pendant des millénaires. Ça avait trouvé son équilibre quelque part. Alors que là, c'est vrai que va apparaître, en même temps que cette surproduction alimentaire, puisqu'il va y avoir du stockage, puisqu'on va produire plus, hein, quand on est un producteur, que ce dont on a besoin dans l'immédiat. Donc ça va provoquer des rivalités, rivalités internes.
Et des guerres.
Et des guerres. Et voilà. Parce que, bien entendu, si vous avez quelque chose que je n'ai pas, je vais vouloir vous le prendre. Donc, il va y avoir des conflits qui vont s'installer. Après aussi, on voit probablement s'installer un petit peu le proto-esclavagisme. Hein, c'est-à-dire que certains vont devoir travailler la terre. Donc, il va y avoir des hiérarchies. Ceux qui vont avoir plus de terres ou plus de bêtes vont être mieux considérés, vont prendre un statut plus important, plus élevé. Donc là, tout le système, si vous voulez, pyramidal va se mettre en place. Et c'est vrai que c'est un changement totalement radical.
La chasse aujourd'hui est devenue un sport, est devenue presque un loisir, mais c'est un loisir avec lequel la société a du mal à gérer. On est pour, on est contre. Il y a beaucoup de passion autour de la chasse. Vous expliquez ça comment?
L'homme, quelque part, chaque homme, sait qu'il a cette part d'animalité en lui. Donc, il veut à la fois, c'est un peu schizophrénique, à la fois, il veut s'en détacher par la culture. Soit, on veut absolument le rejeter en disant, en fin de compte, non, c'est pas du tout, c'est différent. Donc, je peux l'exploiter, je peux le tuer, je peux en faire ce que je veux. Et puis, de l'autre côté, cette part dit, ben non, c'est quand même une part de nous. Et donc, il faut le respecter, il faut le protéger. Donc, il faut, pour certains même, ils vont jusqu'à le sacraliser, le mettre au-dessus des hommes. Non, je pense qu'il faut faire très attention. Je crois qu'il ne faut pas hiérarchiser. C'est-à-dire que les animaux ne sont ni, à mon avis, inférieurs, ni supérieurs à nous. Ce sont des animaux et nous sommes des hommes avec notre culture. Donc, je crois qu'il faudrait aller retourner, peut-être dirais-je, puisque vers mes chasseurs-cueilleurs, dans leur état d'esprit, de faire une symbiose entre eux et nous, de se partager la terre, de vivre en bonne intelligence, en bonne entente, avec un respect mutuel.
En terminant, je voudrais rappeler le titre du livre « Mangeur de viande de la préhistoire à nos jours ». Il est écrit par Marilène Patou-Matisse et paru aux éditions Perrin. Madame Patou-Matisse est préhistorienne, elle est aussi directrice de recherche au CNRS, responsable de l'unité d'archéozoologie du département préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Merci Madame Patou-Matisse d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et voilà, c'est tout pour notre émission pour cette semaine. À la réalisation, Robert Lamarche, à la technique, Charles-Maxime Lemay, les journalistes Hugues de Roussan, Gaëlle Lucia Berdou, Chantal Srivastava et Yannick Villedieu, journaliste au site Internet Lily Marin. Pour nous joindre, pour nous donner vos idées, vos commentaires et vos questions de nature scientifique, vous le faites par téléphone au 514-597-6166 si vous appelez de la région de Montréal. De l'extérieur, vous composez le 1-800-752-9050. Ce soir, à la télévision de Radio-Canada, l'émission Découverte présente à 18h30 la suite et la fin de l'histoire de la NASA. Dans ce quatrième épisode, il sera question de Hubble, de Mir et de la Station spatiale internationale. Ici Sophie-André Blondin, je reviens nous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre édition des Années-Lumière. D'ici là, passez tous et toutes une belle et une bonne semaine. Au revoir.